Le 20 juillet 1944, à 12h30, dans son quartier général de Rastenburg en Prusse orientale, Hitler a réuni comme tous les jours les officiers chargés de lui rendre compte de la situation militaire sur tous les fronts où est engagée l'armée allemande. Autour d'une lourde table de chêne couverte de cartes d'état-major, personne ne remarque le geste d'un colonel qui pose sa serviette sous la table avant de quitter la réunion. Quelques minutes plus tard, à 12h42, la bombe dissimulée dans la serviette du colonel von Stauffenberg explose. Persuadé que Hitler est mort, l'auteur de l'attentat est déjà loin. Il ignore que le dictateur allemand vient d'échapper à un des complots les plus célèbres de l'histoire.
La nouvelle de l'attentat manqué contre le chancelier Hitler a provoqué la réaction opposée à celle qu'attendaient ses auteurs. Un des collaborateurs directs de Führer et plusieurs officiers généraux de son entourage ont été blessés, tandis que le chancelier lui-même, ainsi qu'il l'a annoncé cette nuit dans son message au peuple allemand, sortait indemne de l'attentat. La nouvelle de cet attentat a provoqué une profonde émotion dans le monde entier.
Barbara Köhn, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes d'origine allemande et auteur d'un livre, La résistance allemande contre Hitler. Alors de toutes les manifestations de cette résistance, qu'on connaît mal d'ailleurs en France, on peut dire que vraiment l'attentat du 20 juillet 44 est à la fois le plus spectaculaire et le plus dangereux, parce qu'il a été organisé par des officiers supérieurs de l'armée allemande. Quels étaient leurs objectifs? Je crois que l'objectif, vous le dites, n'était pas seulement de tuer Hitler, c'était de renverser le régime.
Absolument. On doit dire tout de suite que les officiers n'agissaient pas seuls. Ils agissaient de concert avec des civils et il existait donc un programme très vaste pour la reconstruction totale de l'Allemagne sur de nouvelles bases. Donc d'abord des bases morales et chrétiennes. L'état de droit si cher aux Allemands devait renaître. Il y avait également des projets pour incorporer ou insérer encore beaucoup plus étroitement l'ouvrier dans la société. Il devait être le véritable partenaire du patron. Et il y avait des projets qui visaient donc une régulation de l'économie.
Parce qu'il y a même un gouvernement qui était prévu pour remplacer celui de Hitler avec le général Beck, le maréchal Witzleben qui devait en être à la tête. Et puis alors beaucoup de conjurés aussi et qui sont placés à des endroits très importants pour le complot. Vous avez par exemple, vous citez le général von Hase qui commande la place de Berlin, le général Feldgiebel qui commande les transmissions, et puis alors à la tête de l'armée de l'intérieur, deux généraux, le général Fromm et le général Olbricht, qui, à l'annonce de la mort de Hitler, devaient déclencher un plan, le plan Valkyrie, qui permettait d'arrêter tous les hauts responsables du régime nazi.
Oui, tout à fait. Sauf que le général Fromm n'a pas rejoint la conjuration, ce qui était un obstacle considérable, car il devait signer les ordres concernant le déclenchement de Valkyrie. En ce qui concerne Olbricht, il a laissé passer beaucoup de temps, car il ne se sentait pas suffisamment informé par le message que le général Feldgiebel lui avait fait parvenir de façon codée, disant que l'attentat avait eu lieu, mais n'avait pas eu le résultat escompté.
Mais alors justement, Barbara Köhn, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'artisan principal de l'attentat, c'est le fameux colonel von Stauffenberg.
Absolument.
C'est lui qui lui-même se rend au quartier général de Hitler, qui s'appelait le repère du loup en plus, je crois, en Prusse orientale. Il pose cette bombe sous la table, il s'en va, puis prétextant qu'il y a un coup de téléphone important, et la bombe explose. Oui. Il entend la bombe qui explose, il est persuadé que Hitler est mort et Hitler est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a raté? Je crois que la bombe était à 1,90 m Hitler à peine.
Oui, il y avait un bloc de béton très important entre la serviette et Hitler. Stauffenberg n'a pas pu la pousser directement entre Hitler et ce socle sans se faire remarquer. Il s'était donc contenté de la laisser là, croyant qu'une seule bombe de 1 kg de dynamite allait faire son œuvre. D'ailleurs, il ne savait pas que cette réunion se tiendrait dans un baraquement de bois, dans un sous-sol en béton. Cette bombe aurait sans aucun doute tué tout le monde. Mais là, la force de l'explosion s'est échappée par le toit.
Puis quand même, c'était un attentat sérieux, puisqu'il y a eu 4 généraux qui ont été tués autour de Hitler, mais pas Hitler. Alors justement, Stauffenberg, lui, est persuadé que Hitler est mort. Il prend l'avion pour aller à Berlin, et ce voyage dure à peu près 3 heures, hein, pendant lesquelles on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a des coups de téléphone, est-ce que Hitler est mort ou vivant. Et lui-même, Stauffenberg, ne le sait pas, et tous les Allemands apprendront par Hitler lui-même qu'il est vivant, puisque Hitler s'adresse à eux dans la nuit du 20 au 21 juillet 1944.
Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour 2 raisons. D'abord, pour que vous puissiez entendre ma voix et constater que je ne suis pas blessé. Ensuite, pour que vous appreniez sur ce crime qui n'a pas d'égal dans notre histoire. Une petite clique d'officiers ambitieux, criminels, bêtes et sans scrupules ont monté un complot pour m'éliminer et exterminer l'état-major de la Deutsche Wehrmacht.
C'était Hitler, donc, lui-même, quelques heures après l'attentat auquel il vient d'échapper, annonçant aux Allemands qu'il est vivant, et du même coup, ce qui va faire échouer le complot. Cela dit, avant que l'on entende Hitler à la radio, entre ce moment-là et l'attentat, il s'est passé plusieurs heures d'une confusion inouïe. Vous rentrez dans beaucoup de détails, Barbara Kuhn, c'est incroyable, Stauffenberg est là, fait croire que Hitler est vraiment mort, enfin bref, on est dans l'incertitude, dans la confusion la plus totale à Berlin.
Oui, absolument. Et il faut dire que ce coup d'État est la première tentative de régler une telle question par les moyens modernes de télécommunication, de téléphone. Hein. C'est le premier coup d'État fait par téléphone. Et évidemment, Stauffenberg doit, à partir de 16 heures, compter avec la contre-attaque qui vient du quartier général du Führer. Il doit donc toujours contredire que Hitler est encore en vie. Il doit confirmer le contraire. Et évidemment, les militaires qui ne sont pas au courant du coup d'État, qui ne font pas partie de la conjuration, ne sont plus très sûrs et ils ne savent pas s'il peut réellement compter sur eux. D'où la confusion.
Et notamment parmi eux, le général Fromm, qui brusquement, parce qu'il était quand même un peu sympathisant, il n'aimait pas beaucoup Hitler, mais quand il apprend effectivement que Hitler est vivant, Fromm, à ce moment-là, fait immédiatement arrêter tous les conjurés qui lui passent sous la main. Il pousse le général Beck à se suicider, il fait fusiller le colonel von Stauffenberg, le général Olbricht et son adjoint, le colonel Merz von Quirnheim.
Ils sont condamnés à être passés par les armes.
Oberst Merz von Quirnheim.
Le colonel Merz von Quirnheim.
Général der Infanterie Olbricht.
Le général d'infanterie Olbricht.
Dieser Oberst und dieser Oberleutnant.
Le colonel et ce lieutenant dont je ne veux plus me rappeler les noms.
Deutschland wird sich an unseren Namen erinnern.
L'Allemagne se souviendra de nos noms.
Das Urteil ist sofort zu vollstrecken.
La sentence doit être exécutée sur le champ.
C'est l'extrait d'un téléfilm allemand, les premières exécutions des conjurés du 20 juillet 1944, Barbara Kuhn, ils ont été exécutés dans la nuit, hein, je crois,
oui.
À la lumière des phares des voitures.
Absolument, dans la cour du haut commandement de la Wehrmacht qui se trouve dans la Bendlerstraße, actuellement Stauffenbergstraße, non loin du Tiergarten. Oui, Fromm a agi rapidement parce que certainement il craignait que Stauffenberg pouvait le compromettre encore davantage. Mais aussi, je pense qu'il a agi en militaire. Il ne voulait pas le livrer à Himmler, car Himmler arrive à 1 heure, immédiatement après. Et il est très surpris et surtout très fâché d'apprendre que Stauffenberg a déjà été exécuté.
Alors, le coup d'État, l'attentat a raté à Rastenburg, le coup d'État a raté dans toute l'Allemagne. En revanche, chose extraordinaire quand on vous lit, il a réussi dans un pays, c'est la France.
Oui.
En France, il a marché, le plan Valkyrie, qui était valable aussi pour tous les territoires occupés, a fonctionné avec le général commandant le Grand Paris, comme on disait, le général von Stuppnagel.
Oui, absolument, monsieur. Donc, il avait pour but d'arrêter les troupes du régime, c'est-à-dire Gestapo et SS, environ 2500. à 1200 personnes, plus les chefs dont Oberg, Maulas et Knochen. Oberg n'était pas le pire, mais Knochen et Maulas étaient vraiment des personnalités infectes. Et le plan prévoyait aussi que ces trois personnes seraient jugées dans la nuit même par un tribunal extraordinaire, condamnées à mort et fusillées au petit matin dans la cour de l'école militaire. On avait déjà préparé les sacs de sable pour cette exécution.
L'idée, je crois, des conjurés, notamment en France, c'était de d'arrêter en tout cas le combat avec les Alliés. Il faut rappeler que nous sommes le 20 juillet 1920, 21 juillet 44, et que les Alliés ont déjà débarqué depuis un mois et demi en Normandie.
Absolument, monsieur. Et le plan Valkyrie devait donc livrer les prémices pour permettre aux généraux frondeurs de conclure un armistice avec Eisenhower et Montgomery en Normandie. Et comme ça, ils auraient les mains libres pour agir. Et il était prévu, d'après les plans des généraux frondeurs, que l'armée allemande se retire au-delà de la ligne Siegfried, laissant la France et la Belgique à l'administration anglaise et américaine, et qu'éventuellement, elle marche même sur Berlin, cette armée allemande de l'Ouest, pour destituer le régime. Je voudrais préciser que le coup d'État en France a échoué à cause des hésitations du général Feldmarschall von Kluge.
Qui était le successeur de Rommel.
De Rommel, exactement. Kluge n'a pas compris qu'aux yeux de Hitler, il était déjà suffisamment compromis par tous les contacts qu'il avait eus dans le passé. Et le jour même du coup d'État du 20 juillet 1944, car il avait conversé avec Beck au téléphone, et à Paris, le général von Stülpnagel avait pris sur lui de déclencher Valkyrie sans son accord, espérant pousser ainsi von Kluge à la fuite en avant. Et c'est parce que Kluge n'a pas compris qu'il était en grand danger et qu'il ferait mieux de se joindre à Stülpnagel que le coup d'État a échoué au grand malheur pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe.
Alors une fois qu'on apprend, Barbarecken, que Hitler est vivant, alors là, comme en Allemagne, les généraux allemands qui se trouvent en France renoncent à leur projet. Stülpnagel, d'ailleurs, est appelé immédiatement à Berlin. Il va tenter de se suicider à Verdun, où il avait combattu en 14-18. Et puis, c'est donc un échec également en France, et un échec qui satisfait, bien entendu, les collaborateurs français comme Paul Marion, qui stigmatise les Alliés, qui s'étaient réjouis prématurément du complot.
Je m'étonne que, disposant des ressources de toutes les industries de guerre du globe, depuis les torpilles aériennes de 6 tonnes jusqu'aux poignards de tranchées, ils crient de plaisir parce qu'une bombe supplémentaire mais médiocre leur a été offerte par la trahison. Je m'étonne surtout de l'hommage indirect qu'ils ont rendu au chancelier du Reich en laissant transparaître de manière un peu grosse leur désappointement devant l'échec de l'attentat. Cet homme qu'ils traitent de fou sanglant et qu'ils accusent d'avoir conduit ses troupes à la défaite leur apparaît donc encore si redoutable qu'ils souhaitent son expulsion de l'histoire, non par les armes, mais par le crime.
Pauvre collaborationniste, ce qui se passe est vraiment triste. Pour vous et pour votre patron, ça ne tourne pas précisément rond. Des profanistes, Hitler et Buss. Aïe, pom, 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 aïe, pom, 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 aïe, pom, aïe. L'ordre nouveau est dans le tirage. Cramponnez-vous au bastingage. Raccrochez-vous au poil tondeur de la moustache du Führer. Des profanistes, Hitler et Buss. Al-Bom-Bom, Al-Bom-Bom-Bom,
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'attentat contre Hitler.
Et c'était évidemment Pierre Dac en 1944 à la radio de Londres, brocardant le régime nazi et ses collaborateurs français, collaborateurs dont les journaux, bien sûr, se réjouissent de l'échec du complot du 20 juillet 44, la revue de presse Stéphanie Denker.
Oui, en France, alors que les Alliés, débarqués en Normandie, doivent faire face à la résistance acharnée des Allemands, la presse parisienne de la collaboration continue de paraître et de croire coûte que coûte à la victoire de l'Allemagne. C'est donc dans ce contexte que le 21 juillet 44, elle annonce la nouvelle « Un attentat contre le Führer », titre « Le cri du peuple ». Adolf Hitler est indemne, un crime signé Londres. Alors, le lendemain, on en apprend un peu plus. Après l'échec de l'attentat contre le Führer, titre Le Petit Parisien, Adolf Hitler stigmatise la petite clique d'officiers conspirateurs. Les chefs des conjurés ont été fusillés ou se sont suicidés. Alors, Le Parisien fait sa petite revue de presse, des journaux nazis qui tous, bien sûr, se serrent autour de leur chef bien-aimé. Le peuple allemand tout entier jure de nouveau à cette heure une fidélité inébranlable à son Führer jusqu'à la victoire, affirme le Deutsche Allgemeine Zeitung. Et dans une édition spéciale du Völkischer Beobachter, l'organe du parti nazi, on lit ces lignes confiantes d'Alfred Rosenberg. Le destin a protégé le Führer. Il saura conduire le peuple allemand vers l'avenir auquel il a droit. À Paris, le collaborateur ultra Lucien Robatet, dans Je suis partout, y croit lui aussi, encore, dur comme fer à cet avenir radieux. Il jure fidélité au Führer et, s'adressant à ceux qui sont convaincus de sa chute imminente, affirme qu'Hitler sera encore là dans 20 ans. Vous imaginez, jusqu'en 1964. En Marcel Déa, aussi, dans son journal L'Œuvre, se réjouit que, je cite, « Hitler, chef incontesté de la nouvelle Europe révolutionnaire, est échappé par miracle au plus abominable des attentats ». Marcel Déa y voit dans cet attentat la signature des Alliés. Depuis un mois, dit-il, on voyait se répandre avec une vitesse incroyable la grandissime nouvelle de l'accord à l'Est. Il ne fait aucun doute, dit-il, que cette campagne, si bien orchestrée, a été déclenchée par l'Intelligence Service et l'état-major stalinien afin de préparer l'opération des conjurés. Alors, de son côté, l'Action française, le journal de Charles Maurras, lui, tient à minimiser la portée militaire de l'attentat et assure qu'il n'est le fait que de quelques généraux à la retraite ne jouant plus aucun rôle dans la Wehrmacht. Alors, autre son de cloche, bien sûr, de l'autre côté de la Manche, celui de la presse anglaise. Le Times de Londres explique l'attentat contre Hitler non par une conspiration alliée, mais par les dissensions nées ces dernières semaines au sein même du haut commandement allemand sur l'attitude à adopter face à la double offensive alliée. Une offensive qui, affirme le Times, s'ajoutant aux difficultés économiques de l'Allemagne, ne fait qu'aggraver la déconfiture du Troisième Reich.
C'était les journaux français, allemands et anglais au lendemain du complot du 20 juillet 1944, complot dont les responsables, Barbara Kuhn, ont été, et même d'ailleurs leur famille et leur entourage, ont été victimes d'une répression qui a été impitoyable. On a torturé, par exemple, de très nombreux conjurés ou gens qui étaient soupçonnés de conjurés pour les faire parler.
Absolument, monsieur. Jamais encore un régime en Allemagne s'était comporté de cette façon-là. Et d'ailleurs, des généraux sont allés confiants devant leurs juges, croyant d'abord qu'ils seraient jugés par leur père, comme c'est l'usage dans les hauts rangs des militaires. Ils ne s'attendaient pas du tout à être interrogés et torturés et finalement condamnés à mort et pendus à des crocs de...
Et condamné à mort dans un tribunal qu'on appelait, je crois, le tribunal du peuple, où sévissait un juge absolument épouvantable, s'appelait Roland Freisler.
Notre Wyszynski avait dit Hitler.
Oui, c'était le procureur des procès staliniens.
Absolument.
Dans les années 30. C'était vraiment épouvantable. Et justement, on écoute un de ces extraits. Alors, il n'est pas traduit, mais c'est un extrait de ce qui se passe au tribunal, justement, de Freisler. Et vous nous direz à peu près ce qui est dit juste après cet extrait, Barbara Kuhn.
Haben Sie die Kartoffeln gemustert?
Ja, sicher.
Na also, und zwischendurch haben Sie kleine Sachen gehabt, Prophezei. Ist ja ein Skandal, sondergleichen.
Der Angeklagte Hans-Georg Klamroth. Haben Sie dem Führer den Eid geleistet?
Jawohl.
Ja. Und zwar doppelt.
Jawohl.
Als Parteinosse und als Soldat.
Jawohl.
Dose feige Verräter. Sind Karl Gördler, Wilhelm Leuschner, Josef Firmer und Ulrich von Hassel. Volk, Führer und Reich.
Non, c'était ce qui se passait au tribunal du peuple qui a condamné à mort les conjurés du complot du 20 juillet 44. Qu'est-ce qu'on entendait là à l'instant?
Le premier extrait contient une insulte extraordinaire concernant l'accusé qui se voit traité de tous les noms. Et on remarque le ton accuse donc Freisler pour déstabiliser et humilier les accusés. Il parle d'un scandale extraordinaire. Le deuxième extrait, il s'agit de l'accusé Klamroth. Il est interrogé s'il a prêté serment à Hitler doublement, en tant que membre du parti, oui, en tant que soldat, oui. Et le dernier extrait concerne les accusés Gördeler, von Hassel, Würmer et Leuschner. Et ils sont traités de traîtres, de lâches traîtres qui ont conspiré contre l'Allemagne. Et je pense que la sentence de mort va suivre immédiatement.
Ils ont été pendus avec des cordes à piano pour que ça,
oui,
pour
oui,
que ça dure
exact.
Plus longtemps. Je crois même que Goebbels a fait filmer et le procès et l'exécution des gens qui étaient pendus à un croc de boucher. Et les humiliations, le maréchal von Witzleben, qui a fait une très grande famille allemande,
oui.
On lui a retiré les bretelles de son pantalon pour qu'il le tienne par la main afin de l'humilier.
Absolument, monsieur. Et ce film a existé, d'ailleurs. Speer, dans son livre Au cœur du Troisième Reich, le mentionne, et on avait également pris des photos.
Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui s'est suicidé, qui a été convoqué en Allemagne aussi, enfin qui était en Allemagne puisqu'il avait été blessé en Normandie, c'est Rommel. Est-ce qu'il a été mêlé directement au complot?
Absolument. Oui. Von Hofacker, le cousin de Stauffenberg, le confirme. Rommel avait donc donné son accord d'ouvrir des négociations avec Montgomery et avec Eisenhower. Il faut dire qu'il y avait des liens particuliers entre Hofacker et Rommel. Rommel avait servi comme jeune officier dans l'armée du père de Hofacker, général de l'armée württembergeoise pendant la Première Guerre mondiale. Donc, Rommel était directement impliqué et il aurait, on peut le penser, agi. Mais il était grièvement blessé au début du mois de juillet, donc rapatrié en Allemagne. Et à cause de ses liens avec les conjurés de Paris, obligé à se suicider. Et je me souviens très bien, j'étais jeune à l'époque, j'avais 12 ans, les funérailles nationales grandioses que les régimes a organisées pour Rommel, le grand héros. On n'osait pas dévoiler à la population qu'il s'était suicidé. Forcé par le régime et pour ne pas laisser paraître que Rommel était impliqué dans une révolte contre Hitler.
Alors on peut se demander, Barbara Hacken, ce qui se serait passé si la conjuration, si l'attentat du 20 juillet 1944 avait réussi. C'est d'ailleurs la question que se pose un nazi convaincu, le docteur Ley, responsable de l'organisation La Force par la Joie, le 22 juillet 1944, deux jours après l'attentat.
Was Deutschland würde, wenn dieser Mord an...
J'ai pris soudainement conscience de ce que deviendrait l'Allemagne si l'attentat avait eu les conséquences voulues par les assassins. Adolf Hitler disparu. Cela dépasse notre imagination. D'un seul coup, toute une œuvre aurait été anéantie, toute perspective d'une victoire effacée. Mais surtout, des millions d'Allemands entraînés dans une détresse indicible.
C'était Dr. Ley. Un commentaire peut-être sur ce qu'il dit justement à Barbara Kuhn.
Oui,
c'était deux jours après l'attentat.
Oui, oui,
hein. Il se réjouit évidemment qu'Hitler y ait échappé.
Oui, mais il se trompe lourdement car le peuple allemand à cette époque attendait avec angoisse la fin de la guerre. Et qu'est-ce qui se serait passé donc? Les insurgés auraient conclu immédiatement un armistice avec les généraux adversaires. Et de cette façon, l'armée rouge ne serait pas entrée en Allemagne, ce serait même arrêtée en Pologne. L'Europe de l'Est n'aurait pas été livrée aux Russes et au système soviétique. Et de même, pour faire contrepoids, l'Amérique n'aurait jamais été aussi présente en Europe comme elle était obligée de le faire après cette avancée spectaculaire des Russes en Europe. D'autre part, l'Allemagne aurait retrouvé aussi bien sa tradition d'état de droit que ses traditions démocratiques. Et voilà, l'Allemagne n'aurait pas été partagée comme elle l'a été à la fin de cette guerre. Et elle aurait sauvegardé ses élites, car Hitler a étouffé aussi bien nos élites militaires que nos élites dans la haute administration. C'était pour l'Allemagne une mutilation, je pense, considérable.
Merci Barbara Kuhn de nous avoir donc parlé de cet attentat du 20 juillet 1944 qui fait l'objet de tout un chapitre de votre livre, La résistance allemande contre Hitler, une résistance